Bonjour, je m'appelle Marielle et j'ai le plaisir de vous accueillir sur Compresse et Sparadrap, le podcast qui donne la parole aux soignants. Ici, on parle de vocation, d'expérience, de déception, de choix de carrière, mais aussi de remise en question et de moments de bonheur. L'idée, vous faire découvrir ces métiers de l'ombre, l'envers du décor du milieu hospitalier, par le biais de partage d'expériences et d'interviews sans tabou. Aujourd'hui, je donne la parole à Julie. Elle fait partie de ces milliers d'étudiants infirmiers qui voient leur formation bouleversée par la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19. Ensemble, nous avons parlé de son expérience en tant qu'étudiant réquisitionné pour aller prêter main forte dans les établissements de santé. Bonne écoute. Bonjour Julie.
Bonjour.
Comment tu vas?
Bah ça va bien et toi?
Moi ça va très bien, je te remercie. Je suis ravie de t'avoir à mon micro aujourd'hui.
Merci, moi je suis ravie d'être là aussi.
Alors on s'est connues toutes les deux sur Instagram, où tu tiens un compte qui est hyper bien fait, qui vient en aide aux étudiants infirmiers. Avant d'expliquer tout ça, je te laisse te présenter.
Donc moi c'est Girl in Nurse Studio sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Pour rester anonyme, je donne mon deuxième prénom, c'est Julie. J'ai 20 ans, je suis étudiante infirmière en deuxième année. Et j'ai la chance de pouvoir encore habiter chez mes parents pour mes études. J'aime la photographie, le sport automobile et puis j'aime bien partager sur Instagram justement.
Bon bah génial. Alors la petite question que j'aime bien poser pour démarrer cet entretien, c'est qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais plus petite?
Depuis que je suis petite, je sais que je veux travailler dans la santé. Après, je savais pas trop dans quoi. J'ai plusieurs frères et sœurs et ce qui m'attirait, c'était vraiment les nouveau-nés et les femmes enceintes. J'ai donc voulu faire sage-femme. Du coup, avant de faire l'école d'infirmière, j'ai fait PACES, la première année de médecine, que je n'ai pas réussi, parce que c'était trop très haut pour moi, fallait trop travailler, trop être à fond. Je n'ai pas réussi, je suis entrée en école d'infirmière ensuite. Après réflexion, je me suis dit que je pouvais aussi travailler auprès des nouveau-nés, des femmes enceintes, tout en étant infirmière. Donc je me suis lancée et je ne regrette pas.
Donc quand tu as commencé les études de médecine, pour toi l'idée c'était la finalité de devenir sage-femme?
Voilà, exactement.
Et puis c'est une formation du coup que tu as trouvé trop théorique, trop complexe, trop de choses à apprendre.
Oui, fallait trop travailler pour en fait, je savais pas trop pourquoi je travaillais. Enfin, je voyais des choses mais je voyais pas le rapport avec le futur métier. Du coup, c'était compliqué pour moi.
Donc cette année de PACES, ce qu'on appelle donc la première année de médecine, tu l'as tentée une seule fois et à la fin de cette première année, tu t'es dit bon, clairement c'est pas fait pour moi, je pars sur autre chose.
Ouais, tout à fait, parce qu'à la fin de la première année de médecine, moralement, j'étais pas très bien. Je me voyais pas refaire une autre année pour... en plus, on n'est même pas sûr de passer quand même à la deuxième année. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je change. C'est pas un métier... infirmière, c'est pas un métier... C'est un métier auquel j'avais déjà pensé. Et je me suis dit, allez, je me lance.
Donc comment ça s'est passé au niveau de la sélection? Concours ou inscription?
Moi, je fais partie de la première promo qui a été sélectionnée par Parcoursup.
D'accord. Ah ouais, alors ça, c'est intéressant. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce que moi, je fais partie des dinosaures de la formation infirmière où on passait encore un concours avec un écrit, un oral, etc. Donc ça se passe exclusivement par ce système de Parcoursup.
Oui, sur un logiciel, sur un site internet Parcoursup, il faut renseigner une lettre de motivation. Et c'est ce qui compte vraiment le plus. Donc la première fois, ils nous sélectionnent avec la lettre de motivation. Puis après, ils regardent le dossier. Et en fonction de ça, on est classé selon les villes où on veut aller. Du coup, je suis rentrée en école d'infirmière en septembre 2018. J'ai fait mon premier semestre normalement, c'est-à-dire de septembre à fin janvier. C'était normal en présentiel, les cours à l'école. En février 2020, du coup, pour le deuxième semestre, je suis partie en stage 5 semaines en cardiologie. On est revenu à l'école le 9 mars et c'est à la fin de la semaine que Macron a annoncé la fermeture des écoles et le début du confinement. Du coup, on était un peu perdus, j'avoue. L'IFSI aussi. Donc l'IFSI, c'est l'Institut de formation soins infirmiers. Donc c'est l'école pour apprendre à être infirmier. Et pendant quelques semaines, j'ai pas eu cours. Alors, le temps de connaître les modalités du confinement, d'arrêt de l'école. Les formateurs, fallait qu'ils s'adaptent aussi. Les formateurs, c'est nos professeurs. Donc, c'était compliqué pour tout le monde. Ensuite, mon IFSI, c'est devenu une garderie. Et un tiers de ma promo, donc environ 40 personnes, on a été réquisitionnés pour faire de la garderie. On gardait les enfants des soignants.
Ah, d'accord. C'est quelque chose qui a été organisé comme ça,
oui,
du jour au lendemain, pour que les soignants puissent aller au travail et pour faire garder leurs enfants.
Et oui.
Ah, c'est incroyable.
Du coup, les enfants étaient rangés, on les mettait par catégorie d'âge pour adapter les activités, on faisait leurs devoirs parce que eux aussi, ils avaient des devoirs. En même temps, on devait suivre des cours, donc on avait des cours en distanciel. Bon, la majorité, c'était des cours à travailler tout seul, donc on pouvait les travailler un peu quand on voulait, mais des fois, on avait des cours en visio aussi. Alors bon, bah c'est un peu plus compliqué parce qu'on en loupait. On a passé les partiels à distance aussi, ça c'était fin mai, on a fait tout à distance. Puis début juin, on a eu la chance de repartir en stage 5 semaines. Donc en fait, nous, le confinement, il nous a juste perturbé les cours, mais les stages, on a eu la chance de les faire.
Bon, heureusement, ouais. Bon, puis après, cette deuxième vague qui est arrivée, mais on va en reparler après. Mais et du coup, c'est une formation qui a été complètement, complètement chamboulée par cette crise sanitaire pour vous. Et puis j'imagine la difficulté de devoir apprendre à distance. Moi, je me souviens des cours que j'ai eus avec des travaux pratiques, des choses comme ça. Tout ça, c'est plus possible. On part sur de l'enseignement à distance avec des cours magistraux. Enfin, c'est, j'imagine, pas forcément adapté à ce qu'on essaye de vous apprendre. Est-ce que c'était compliqué pour toi de gérer ça depuis la maison ?
Ben, du coup, ma première année de médecine, c'était 100% à distance aussi. Donc, en fait, j'ai eu des automatismes qui sont revenus. Par exemple, moi je sais que je suis plus efficace à l'après-midi, donc le matin bah, je me laissais dormir et je travaillais un peu plus tard le soir. Après, je sais que pour d'autres personnes dans ma promo ça a été compliqué, il y en a qui ont lâché. Les formateurs ont fait de leur mieux pour adapter les cours, mais normalement on a beaucoup de personnes, de médecins, d'infirmiers qui viennent. Et ils n'ont pas pu venir du coup, donc on avait leur diaporama, sauf que dans un diaporama on n'écrit pas le cours, on écrit juste des mots-clés ou voilà. Donc parfois c'était compliqué de réviser les cours. Moi je sais que c'est plutôt en psychopathologie, c'était plutôt compliqué parce que la névrose, la psychose, enfin c'est des mots compliqués et quand on n'a pas la personne qui nous explique et qui est dans le domaine, c'est pas facile à comprendre.
Ouais, il y a des choses qu'il faudra quand même vraiment pouvoir avoir avec une personne réelle devant soi qui discute avec nous, quoi, sur des sujets aussi compliqués, ouais, c'est sûr. C'est vrai ce que tu dis, les intervenants qui interviennent justement en institut de formation en soins infirmiers, on le dit pas forcément, mais on n'est pas formé que par des infirmiers, il y a beaucoup de médecins, ou même d'autres praticiens qui viennent donner cours. Et donc ils vous fournissaient, voilà, leur support écrit, mais bon, sans avoir toute la présentation orale qui allait avec, c'est compliqué.
Oui, c'est ça. Bah oui. Parce que oui, en général, on n'écrit pas son cours sur le diaporama. Donc, puis quand on est, quand on fait par exemple de la psychologie, il y a des mots compliqués qu'on n'utilise pas tous les jours. Donc, pas forcément facile de les comprendre.
Ouais, c'est sûr. Donc, du coup, fin de la première vague, vous avez réussi, voilà, à trouver tous une méthodologie de travail pour essayer, voilà, de faire vivre la formation un maximum. Et puis, été 2020, du coup, vous vous retrouvez tous dans votre promotion en stage classique. Pendant l'été, pour ces 5 semaines. Donc tu t'es retrouvée dans à quel endroit pour toi ?
Moi j'étais dans une infirmerie, dans une caserne militaire.
Hyper intéressant comme stage.
Ouais, c'était super cool, j'ai vu plein de choses.
C'est un stage que t'avais demandé ou qui t'a été proposé comme ça ?
Non, j'avais pas demandé, je savais même pas qu'on pouvait aller dans une caserne militaire. C'est l'IFSI qui m'a proposé et j'ai dit bah oui, pourquoi pas.
Dis donc, ouais, c'est intéressant comme expérience. Ouais. Et puis après, rentrée scolaire septembre 2020, comment ça se passe pour vous ? Qu'est-ce qu'on vous dit ? Qu'est-ce qu'on vous explique ?
Du coup, septembre 2020, on rentre normalement en présentiel à l'école. On reprend normalement pendant 2 semaines. Puis après, on a un cluster dans notre école. Donc, on repasse en confinement pendant 2 semaines et on reprend les cours à distance. Encore une fois, les formateurs n'avaient pas forcément prévu.
Oh là là, ouais. Donc, ça veut dire qu'il y a un étudiant de la promotion qui était contaminé. Et puis, voilà, par sécurité, oui, tout le monde est resté à la maison, quoi.
Et voilà, ça a impacté aussi les autres promos, du coup.
Bien sûr.
Après 2 semaines, on est en cours, 2 semaines en confinement, puis encore 1 semaine, on retourne à l'IFSI, et après, je devais partir en stage.
Ok, quel stage était prévu pour toi ?
Moi, je suis allée 6 semaines en EHPAD.
Ok, donc en EHPAD, les établissements d'accueil pour les personnes âgées dépendantes, donc en maison de retraite.
Ça. Ok. Voilà.
Ce stage, t'as pu le faire dans sa totalité ?
Oui, j'ai fait 6 semaines. Ensuite,
comment ça s'est passé ?
Bon, très bien. J'avais déjà fait un stage en EHPAD, mon tout premier stage de première année. J'ai vu mon évolution, du coup. J'ai eu la chance d'être autonome pour mes 30 résidents. J'ai fait tous leurs soins.
Oh, c'était cool. 30 résidents. Ah ouais, c'est sûr que c'est des établissements de soins où il faut être capable de démultiplier sa concentration, ses gestes, etc. C'est hyper formateur comme endroit, en tout cas. Et à la fin de ces 6 semaines de stage, normalement, retour en cours.
Normalement, retour en cours, oui. On a appris le dernier jour de stage qu'on allait être réquisitionné. Donc pour le moment, on n'était que 25 réquisitionnés. Et je devais être réquisitionnée en tant qu'AS en réanimation.
AS, donc aide-soignant.
Aide-soignante, oui, en réanimation. Le diplôme d'aide-soignant, si on valide correctement notre première année, il est validé... Enfin, on est aide-soignant après la fin de la première année. Le vendredi, on apprend qu'on doit être réquisitionné. On devait partir le mercredi sur le lieu. Le vendredi, on apprend qu'on devait aller en réquisition aider les équipes. Le mercredi, l'ARS, je sais toujours plus le nom.
L'Agence Régionale de Santé, ouais.
Merci. L'ARS dit à notre IFSI que c'est pas possible. Ils donnent pas le feu vert. Donc, on part pas. On attend. Pendant ce temps-là, encore une fois, les cours sont annulés, arrêtés. Puis on attend. Les filles nous donnent les infos qu'ils ont parce qu'eux aussi sont un peu perdus. Ils n'ont pas forcément d'informations. Fin de semaine, on apprend que cette fois-ci, c'est toute la promo qui sera réquisitionnée. Et qu'en plus, notre formation est suspendue.
Oh là là.
C'est-à-dire qu'on part sur le terrain en CDD, donc en contrat comme une personne qui travaille. Qu'on n'aura plus cours jusqu'à début janvier, quand on va devoir être aide-soignant. On a peut-être les apports théoriques pour être aide-soignant, mais je veux dire, on n'a pas l'expérience, tout ça, donc c'est un peu compliqué.
Alors, le métier d'aide-soignant, c'est un métier qui est très, très, très complémentaire au métier d'infirmier. Hein. Dans beaucoup de services, on travaille en tant que binôme avec les aides-soignants. C'est une profession qui est capitale pour prendre en charge les patients. Et comme tu l'as dit, au bout d'un an d'études à l'école d'infirmière, donc la formation d'infirmière c'est 3 ans, au bout d'un an d'études, on obtient l'équivalence de ce diplôme d'aide-soignant, qui est une formation qui se fait donc en un an. Mais en effet, comme tu le dis, ça, sur le papier, ok, pourquoi pas, mais il manque beaucoup, voilà, d'expérience, d'apprentissage, de choses qu'on découvre sur le terrain. Alors vous étiez dans quel état d'esprit, vous? Puis en plus, avec ces demandes ou ces informations qui émanent de l'IFSI, qui sont assez contradictoires avec ce que l'ARS vous dit derrière, c'est compliqué pour vous, j'imagine.
On était un peu perdus, un peu énervés aussi, parce que on voulait pas perdre une partie de notre formation, parce que c'est important aussi pour le diplôme, et qu'on a peur déjà qu'on a des jugements sur le fait qu'on soit une promotion qui vienne de Parcoursup, qu'en plus on soit la promotion Covid, et qu'on ait loupé des cours ou même des stages. Parce qu'il y a certains IFSI où ils ont loupé des stages. On était un peu, oui, un peu perdus parce que, oui, on a les apports théoriques. On sait faire ce que les AS font, mais on ne sait pas forcément le faire tout au long d'une journée. On attendait. Puis, moi, j'avoue que j'ai eu un petit coup de mou, que j'ai même pensé à arrêter parce que, voilà, l'attente, ça m'embêtait. Puis, j'étais perdue. Bon, au final, j'ai repris un peu du poil de la bête et je suis de nouveau motivée, mais ouais, sur le coup, c'est compliqué.
Ouais, j'imagine. Ouais. Passer par toutes ces étapes, déjà, les études en tant que telles, sans crise sanitaire, sans ce genre de problème, c'est déjà une période qui n'est pas toujours très simple, mais avec autant d'inconnus dans l'équation, j'imagine ce que vous avez dû vivre. Ouais, je pense qu'il y a de quoi se remettre en question, puis de quoi douter. Hein. Ouais. Alors du coup, à ce jour, comment ça se passe pour toi ?
Du coup, je suis réquisitionnée en EHPAD, dans le service où j'étais en stage, depuis le 25.
Ok, on enregistre fin novembre, pour ceux qui nous écoutent, voilà, tout est un petit peu en décalé, mais on enregistre toute fin novembre.
Du coup, oui, j'ai fait mon premier jour le 25 novembre. Je suis un peu chanceuse parce que du coup, je connais les résidents, je connais l'équipe. Faut juste que je travaille correctement et que je me mette dans le rythme. Après, j'ai fait mon premier jour, j'ai été doublée, donc j'ai accompagné une autre aide-soignante pour la suivre et qu'elle me montre tout. Et ça s'est très bien passé.
Et comment tu te sens aujourd'hui ?
Comment je me sens ? Un peu énervée quand même, parce que on loupe une partie de notre formation, qu'on va devoir rattraper un moment ou un autre, parce que forcément, on va avoir des lacunes. Après, moi, je trouve que c'est important d'aller aider. Ils en ont besoin, donc on a les capacités pour, alors pourquoi pas. Et puis, je trouve aussi que c'est important parce que les infirmiers et les aides-soignants sont souvent en binôme. On a un rôle propre ils peuvent en participer. Donc, c'est un peu se mettre à leur place une fois qu'on sera diplômé, parce que je sais que certains infirmiers sont pas très sympas des fois avec les aides-soignants, donc c'est se mettre à leur place.
T'arrives à tirer du positif de la situation et à te dire que à terme ça sera bénéfique pour toi, ça te permet de découvrir en effet cette profession qui est souvent malmenée. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis. T'arrives, ouais, c'est dans ton caractère, quoi. T'arrives à tirer du positif de tout ça. Ouais, c'est chouette, ça s'entend en tout cas. Alors maintenant, on va passer à une question plus pratique. Est-ce que tu peux me parler de, voilà, d'un point de vue vraiment législatif? Tu nous as parlé d'une histoire de contrat, de CDD. Oui. Donc vous avez signé un contrat. Par qui ce contrat, enfin comment ce contrat a été mis en place, est-ce que tu peux nous parler aussi de la rémunération, enfin voilà, d'un point de vue plus pratique, comment ça se passe pour vous?
Alors on a un contrat comme si on était aide-soignant, on a le même salaire qu'eux, c'est la DRH de l'hôpital qui nous a fait notre contrat, qu'on a dû signer, que je n'ai pas encore fait mais je vais le faire. Donc oui, on est rémunéré comme une personne diplômée aide-soignante qui va travailler, donc échelon 1. Ça fait à peu près, dans mon hôpital, du 1 500 € pour un mois.
Donc, brut, hein?
Brut, oui.
Ok.
Donc, pour nous, étudiants infirmiers, c'est pas mal, parce que pendant nos stages en tant qu'étudiants infirmiers, en première année, c'est 28 € la semaine. En deuxième année, c'est 38 € la semaine. En troisième année, c'est 50 € la semaine. Donc... c'est vrai que c'est mieux, quoi.
Ouais, au moins une compensation financière, ouais. Ces études, je vois que ça n'évolue pas, tu vois, j'étais pas au courant de tout ça, mais moi, à mon époque, c'était pareil. Je me demande même si c'était pas un tout petit peu en dessous de tout ça, mais peut-être que l'inflation a fait un peu son travail depuis, en disant, mais je me souviens de cette rémunération vraiment ridicule du 15 € par semaine ou un truc comme ça. Ça payait à peine le ticket de bus pour se rendre dans l'hôpital dans lequel on allait en stage. Enfin, c'était vraiment assez ridicule, quoi. Mais ouais, donc au moins, voilà, un cadre législatif et puis une rémunération qui est en conséquence. Bon, ça, c'est au moins une bonne nouvelle dans tout ce qui vous arrive.
Oui, oui, parce que la première vague, personnellement, j'ai des collègues de promo qui ont été réquisitionnés en tant qu'aide-soignants, mais eux sont déjà aides-soignants de base. Ils sont en promo professionnelle, c'est-à-dire que c'est l'employeur qui paye leur formation. Et normalement, ils sont aides-soignants et ils n'ont pas été payés en tant qu'aides-soignants.
Ah oui, donc ils ont le diplôme d'aide-soignant, ils font la formation d'infirmier pour augmenter en compétences.
C'est ça.
Et ils ont même pas bénéficié de ça.
Non.
Ah oh, ouais, ça c'est quand même malheureux, quoi. Bon, heureusement, du coup, il y a quand même eu des bonnes nouvelles avec cette deuxième vague, des choses qui ont été anticipées un peu différemment, mais...
Des changements. Ils nous ont écoutés.
Ouais, heureusement. Et ce contrat part sur combien de semaines ?
Du coup, du 25 novembre au 20 décembre.
Ok, bon, suite au prochain épisode, alors voir comment ça se...
L'ARS a dit que c'était renouvelable, possiblement renouvelable.
Ouais. C'est vrai, on n'a pas encore de... Je pense qu'au moment où les gens écouteront ce podcast, on va être début janvier, il y aura peut-être eu plus d'infos, mais c'est vrai qu'au moment où on enregistre, c'est plein d'inconnus, quoi. C'est un peu difficile. Alors, on a parlé des émotions que tu as traversées ou que tu es en train de traverser. J'ai bien entendu qu'il y avait eu des périodes de colère, et je crois que c'est tout à fait entendable. Est-ce que, en dehors de ça, tu as eu, ou est-ce que tu as peur, ou est-ce que tu te sens inquiète pour ta santé, ou sur d'autres aspects?
Je dirais que non. Pas forcément, parce que je sais que dans le service où je suis, ils ont malgré rien nécessaire si jamais ils ont des suspicions ou si jamais ils ont carrément des cas Covid. Pendant mon stage, j'ai eu l'occasion de voir du coup qu'on avait le matériel nécessaire, que les précautions seront prises et que si jamais on a un gros doute, on fait le test et la personne qui est potentiellement Covid... ne restera pas dans le service. Dans l'établissement où je suis, il y a un service dédié aux personnes qui ont la Covid. Du coup, dès qu'on a une personne qui est pas malade comme ça, on la monte à l'étage. C'est plus simple pour nous et mieux pour elle, parce que du coup, comme elle est Covid, on essaie d'aller la voir la moins souvent pour éviter la propagation du virus pour les autres résidents. Parce qu'ils sont proches, c'est sûr. Donc c'est mieux pour elle, parce qu'en haut, au moins, des personnes peuvent venir la voir plus souvent, discuter avec elle et passer du temps avec elle.
Ah mais d'accord. Donc les patients qui sont atteints du Covid, moi je dis toujours du Covid, mais je crois que tu as tout à fait raison, c'est la Covid.
J'ai dit pareil, j'ai fait attention.
Mais je n'arrive pas à m'y faire. Donc ces patients sont transférés dans un service dédié pour essayer de rassembler les personnes contaminées pour éviter de propager le virus dans tout l'établissement.
Exactement, qu'elles soient symptomatiques ou symptomatiques, on évite de les laisser dans le service où les personnes ne sont pas atteintes.
Ok, bon, c'est une bonne chose, c'est quand même bien organisé. Comment ça va se passer du coup si, voilà, si on part du principe que ton CDD va durer le temps donné et que fin décembre, enfin début janvier plutôt, ta scolarité, ta formation reprend habituellement, comment ça s'annonce pour toi pour 2021?
Alors normalement, au mois de janvier, je partirai 4 semaines dans un cabinet libéral.
Ah, génial!
Oui. Ensuite, je continuerai, enfin, on retournera à l'école, faire le semestre 3, le semestre 4, pardon. Et puis, fin de l'année, j'irai 7 semaines dans un lycée médico-social pour des ados qui sortent de problèmes psychologiques, mais qui ont quand même besoin encore d'un suivi.
Et donc, ça te fait un panel de stages assez vaste. Elle a l'air
Oui.
bien bien lancée, je trouve, ta formation. Tu es en train de
Oui.
voir plein de choses différentes. C'est hyper
Oui.
intéressant.
Ouais.
Est-ce que tu peux d'ailleurs nous donner, voilà, ton ressenti sur la formation, alors hors Covid, parce que voilà, j'entends bien que cette période elle est compliquée, mais est-ce qu'elle répond à tes attentes? Est-ce que tu découvres un métier que tu apprécies? Est-ce que tu le découvres comme tu l'avais imaginé?
Je le découvre encore mieux que ce que j'avais imaginé. La formation, moi j'aime beaucoup l'alternance entre l'école et les stages, parce qu'on peut mettre en application ce qu'on a vu à l'école en stage et inversement. Personnellement, par exemple, j'ai fait un stage en cardiologie en première année et en début de deuxième année, on voit beaucoup de maladies cardiaques. Donc on va dire que j'ai été un peu avancée sur les connaissances et de mettre en application ce que j'ai vu et de voir que je faisais les bons liens, c'était bien. Et franchement, la formation, je pense qu'elle est bien pensée dans le sens où il y a autant de... À la fin du compte, il y a autant de stages que d'écoles. Et je pense que c'est ce qu'il faut pour apprendre.
C'est une formation qui est bien pensée, qui est bien articulée, qui permet de mettre en application ce qu'on apprend en effet en cours, mettre la théorie en application pendant les stages, et inversement, comme tu le dis, de découvrir des choses en stage et puis de pouvoir faire les liens quand on revient, ça c'est hyper intéressant.
Après aussi, j'avoue que c'est pas simple tous les jours. Il y a quand même beaucoup de cours à apprendre. Les stages, c'est aussi fatigant parce qu'on fait des journées entières et pour autant, il faut quand même réviser après parce qu'il y a quand même des partiels. Donc, c'est intense.
Et les partiels, du coup, interviennent combien de fois pendant l'année?
2 fois dans l'année, c'est-à-dire 1 fois par semestre.
D'accord. Ah ouais, donc des périodes bien chargées où il faut,
Oui.
j'imagine, reprendre tout ce qui a été appris. Et
Oui.
ah ouais, ça,
Oui.
c'est... Ouais, avec un stress colossal qui va avec, j'imagine.
Tout à fait.
Bon, et alors, imaginons que la situation ne s'améliore pas. Je le souhaite absolument pas, mais imaginons que, voilà, début janvier, le Covid soit toujours là, que la réquisition elle soit toujours d'actualité. Est-ce qu'on vous a déjà parlé de la suite des événements ou de ce qui pourrait être fait? Ça a été anticipé?
Ben oui, du coup, on continuerait réquisitionnement si jamais la situation ne s'améliore pas. Après, si elle s'améliore, ils nous disent que la formation ne sera pas impactée, mais l'IFSI nous a parlé d'annuler notre stage de janvier, de faire cours à la place, de rattraper les cours de décembre en janvier et de faire les partiels début février, qui devaient être normalement fin décembre, juste avant les vacances.
Ils sont déjà en train de réfléchir à réorganiser la formation pour que,
Ouais.
ouais, que les bonnes choses tombent au bon moment et puis que vous soyez évalués au milieu d'année, quoi.
C'est ça, exactement. Bah, ils essaient de voir un peu plus loin, mais ils nous disent que janvier, c'est loin et proche à la fois.
Bon, bah écoute, je crois que là, on souhaite qu'une chose, c'est que la situation s'améliore, parce que je crois que
Tout à fait.
pour
Oui.
toi et pour tous les étudiants infirmiers de France et de Navarre, c'est compliqué en ce moment.
Oui.
Donc,
C'est pas facile.
ouais, on croise les doigts pour vous. C'est sûr que c'est une période pas simple. Moi, j'ai fait mes études pendant la période de la grippe A.
Ah oui.
Voilà. Bon, qui était sanitairement, qui n'avait absolument rien à voir avec ce qu'on est en train de vivre actuellement. Mais j'avais été réquisitionnée, pour la petite histoire, en fin de troisième année, si je dis pas de bêtises. Non, en fin de deuxième année. Et je m'étais retrouvée dans un immense gymnase à Lyon et je m'étais retrouvée à vacciner des gens. Alors, je peux dire que les intramusculaires.
Tu les
Je
connais?
les connaissais par cœur, par cœur, par cœur. Et bon, ça n'a vraiment, c'est absolument incomparable comme situation, mais je me souviens déjà du stress que ça avait généré à l'époque. Pareil, on m'avait interrompu un de mes stages en psychiatrie, et je me suis retrouvée pendant, alors ça n'a pas duré très longtemps, peut-être une semaine, à faire des vaccins à la chaîne, mais il y avait beaucoup d'inconnus. Bon, puis finalement, on n'était absolument pas dans le contexte de la pandémie qu'on vit actuellement, mais je me souviens déjà de l'angoisse que c'était à l'époque, donc je peux que imaginez ce que ça engendre pour vous.
Bon, dès qu'il y a un petit changement, il y a un peu de stress, c'est normal.
Ouais, et puis c'est déjà tellement d'inconnus, comme tu disais, bon, les études, ces stages qu'on découvre, le milieu professionnel, le milieu hospitalier, c'est déjà assez de stress comme ça, quoi, pour se rajouter quelque chose par-dessus. Bah, en tout cas, bravo pour ta faculté d'adaptation, parce que c'est admirable, et puis de réussir à garder le sourire, que les auditeurs ne voient pas, mais moi je le vois, réussir à garder le sourire dans cette situation délicate, franchement, chapeau, parce que c'est pas simple, et puis on espère que ça va s'améliorer pour vous tous, en tout cas.
Merci.
On va finir cette petite interview par un petit portrait chinois, hein, comme tu le sais. Oui. Alors, j'ai adapté un petit peu les questions, parce que vu que tu n'es pas encore diplômée, voilà, j'ai un petit peu adapté les questions pour que ça colle à ce que tu fais. La première question, si tu avais une baguette magique, quel outil voudrais-tu inventer pour t'aider dans ta formation, cette fois-ci ?
Des journées plus longues. Je dirais des journées plus longues, oui, pour réussir à faire tout ce que j'aimerais, entre les cours, les stages, la vie personnelle, prendre du temps pour rien faire. Parfois, les journées sont pas assez longues.
J'imagine complètement. La question suivante, la phrase que tes formateurs prononcent le plus à l'IFSI, donc à l'Institut de formation de soins infirmiers.
Je dirais, la confiance n'exclut pas le contrôle.
Ah, excellente citation, que j'utilise beaucoup aussi. Ouais. C'est une bonne façon de voir les choses, puis de résumer ce qui se passe sur le terrain. Ouais, toujours Exactement. Contrôler deux fois, même si on a confiance, toujours contrôler. Ouais, c'est très bien.
Tout à fait.
Question suivante, si tu étais un module. Alors un module, donc si tu peux déjà nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste, et puis voilà, un module peut-être que tu as apprécié.
Du coup, nous, à l'IFSI, on ne parle plus de module, on parle de DUE.
Ah bah c'est bravo, bah, tu vois, je me trompe déjà dans l'intitulé de la question.
Du coup, c'est une unité d'enseignement, donc une matière.
Okay.
Et moi, je dirais que ce serait la 2.8 S2 S3. C'est les processus obstructifs. Donc, on parle des maladies d'une obstruction, des maladies cardiaques, des AVC, des maladies de la circulation. J'ai bien aimé cette UE.
Ouais, alors c'est vrai qu'en plus la formation a tellement changé ces dernières années. Moi j'avais vraiment des modules, alors voilà, donc on appelait donc modules et non pas UE, cardiologie, pneumologie, maternité, gestes d'urgence, et puis maintenant vous travaillez, voilà, par exemple sur les troubles obstructifs, c'est hyper intéressant, ouais. ça englobe beaucoup de choses différentes. Question suivante, plutôt thé ou café ?
Thé.
Tu pars avec ton gros thermos de thé
Non, je l'ai fait une fois, mais non. Je ne le fais plus.
Pour t'accompagner pendant les révisions.
Oui, c'est ça. Que pour les révisions.
Question suivante, plutôt crocs ou basket ?
Moi, je suis plutôt basket.
Très bien. Et la dernière question, si tu n'avais pas fait des études d'infirmière, quelles études aurais-tu fait ? Alors, sachant que du coup, la réponse études de médecine n'est pas acceptée, hein, parce qu'on en a déjà bien parlé.
Du coup, je pense que j'aurais fait photographe.
Ah, d'accord. Ok. Mm-hmm.
Tout à fait... Ben, pas comme les études d'infirmiers, quoi.
Ouais, vraiment radicalement différent, mais ouais.
C'est ça, différent.
Le côté artistique de la chose. C'est quelque chose que tu, voilà, du coup, que tu développes dans tes hobbies au quotidien, c'est quelque chose que t'aimes bien.
Ouais, j'aime bien prendre des photos. J'avoue que pendant ma première année de médecine, j'ai carrément arrêté, j'avais pas le temps. Puis à l'IFSI, j'ai eu le temps de reprendre le temps. Et ça fait du bien.
Bon bah merci beaucoup Julie, c'était génial de t'avoir à mon micro aujourd'hui pour raconter ton quotidien en tant qu'étudiante infirmière et puis toutes les difficultés liées à la situation actuelle.
Merci à toi Marielle de m'avoir invitée.
Je suis ravie. Et puis écoute, je croise les doigts pour toi pour la suite. Hein. J'espère que la situation va aller vers le mieux.
Merci.
Et puis je te souhaite une très bonne journée, à bientôt.
Bonne journée, à bientôt.
Si vous êtes étudiant infirmier ou aide-soignant et que vous écoutez ce podcast, je vous envoie tout mon soutien pour cette période si délicate qui bouscule certainement votre cursus. Merci beaucoup à Julie d'avoir mis les mots sur les émotions vécues pendant ces derniers mois. Je vous invite à la rejoindre sur Instagram @girlynursestud où elle partage plein d'astuces et de conseils pour vous aider pendant votre formation. Je vous note tout ça dans la description du podcast. Je vous souhaite une très belle année 2021 et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.